when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Bonjour et bienvenue dans Salut Techy, le podcast de Frandroid. Alors tout d'abord, une bonne année 2020 si vous écoutez cet épisode au moment de sa diffusion. Je suis Kassim Ketfi et aujourd'hui on va parler intelligence artificielle. Et pour en discuter avec moi, j'ai deux membres éminents de la rédaction de Frandroid.
Les plus gentils.
C'est vrai en plus.
C'est vrai en plus, exactement.
Pauvre souffle ma gueule.
Représente.
Donc Omar qu'on entend et Geoffroy.
Bonjour. Deux poufs souffles est en place.
Bon ça va, vous avez passé de bons réveillons.
Ça va et je souhaite une bonne année aussi aux éditeurs s'ils écoutent après la diffusion parce que
c'est une bonne
si c'est avant le 31 janvier en tout cas très bonne année si c'est
bonne
après,
année 2021 peut-être
hein, peut-être voilà si vous écoutez dans le futur
parce que si on leur souhaite pas une bonne année on leur dit quoi enfin,
on leur souhaite en tout cas de prendre du plaisir dans
la vie dans ce qu'ils font
quand ils écoutent cet épisode qui est déjà beaucoup trop long en sujet. Et donc, on va entrer dans le vif du sujet avec Omar qui va justement nous parler de futur avec l'intelligence artificielle et Samsung, c'est ça ?
Exactement. Au CES 2020, comme chaque année, on a pu voir plein de nouveaux produits annoncés à Las Vegas, aux États-Unis. Et ce qui se passe à Las Vegas, ça reste pas à Las Vegas. Il y a eu de nouveaux
concepts.
Voilà, c'est ça. Il y a eu de nouveaux smartphones, des ordinateurs avec écran pliable, des concept cars, des appareils 5G, des robots en tout genre. Bref, je pourrais continuer longtemps. La
les
liste
logos.
Est longue. Voilà, c'est ça, ouais. Mais vous avez plus de 100 article dédié sur notre site Frandroid.
Un peu d'autopromo, ça fait jamais de mal.
Exactement. Mais moi, je suis ici pour vous parler, comme tu l'as dit, de néon. Et avant que quelqu'un ne fasse une mauvaise vanne, je vous vois venir, Monsieur Geoffroy et Monsieur Kassim. Je ne vais pas parler de lampadaires, mais d'un intrigant projet de Samsung.
Précisément un projet lumineux de la filiale Starlabs de Samsung.
Tu vas faire la lumière dessus.
Tout à fait, mon cher Kassim. Starlabs, c'est une filiale spécialisée dans la recherche et dans l'innovation. En gros, leur objectif, c'est d'anticiper le monde de demain. Et pour le coup, là, avec ce projet, on est carrément sur de l'anticipation. Néon, c'est un projet d'humains artificiels et même de plusieurs humains artificiels créés par ordinateur. L'ordinateur, il se base sur des photos réelles pour créer, de manière très réaliste, un humain. Et dans les vidéos illustratives diffusées par Samsung, le résultat était hyper alléchant puisqu'on a vraiment l'impression de voir de vraies personnes.
En gros, Néon, c'est une intelligence artificielle avec un visage humain, mais c'est pas un robot en vrai, hein, c'est ça.
J'ai envie de te répondre oui. Et j'ai envie de te répondre non aussi. Hein. C'est vraiment cette notion d'humain artificiel qui est mise en lumière par Samsung. Donc un humain artificiel, on parle vraiment d'humain artificiel plutôt que d'intelligence artificielle, j'ai l'impression. Ce que Samsung veut faire avec ce projet Néon, c'est pas un nouveau Bixby, et heureusement. Hein. C'est pas un assistant à qui on demanderait « Hey Néon, quel temps fera-t-il demain ?» ou « Allume la lumière du salon ?» ou encore « C'est quoi la 36e décimale de pi ?» Je n'ai pas cette réponse. Le but ici, c'est vraiment de créer une personne avec qui on interagit. D'ailleurs, Samsung nous dit, je cite, au fil du temps, les néons travailleront comme présentateurs à la télévision, porte-parole ou acteurs de cinéma, où ils peuvent simplement être des compagnons ou des amis.
Il est aussi précisé que les néons, donc ces fameux avatars là en intelligence artificielle, sont censés évoluer et apprendre à mieux nous connaître au fur et à mesure de nos interactions avec eux, c'est ça ?
Ah oui, et donc en soi, Néon, c'est une intelligence artificielle puisque ce sont des algorithmes qui évoluent de manière autonome en fonction de ce qu'on leur apprend. Donc ça, c'est une intelligence artificielle. Sauf que contrairement aux assistants de nos smartphones, ici, le but n'est pas de nous donner accès à une immense base de données. Le but, c'est avant tout de nous donner des humains avec qui on interagit, de faux humains du coup, qui veulent être aussi vrais que possible.
Mais du coup, créer un humain artificiel, finalement, c'est beaucoup plus difficile que de créer une intelligence artificielle ?
Bah, en fait, créer un humain, ça veut dire créer une personne avec une personnalité. Hein. Désolé pour la répétition.
Comment créer un humain ?
C'est ça, en fait. Il n'y a pas de recette, j'ai l'impression. Mais Samsung, ils en parlent très brièvement dans leur projet, mais il est prévu en tout cas que les néons imitent les sentiments humains. Ça, ok. Ce qui est encore plus dur, par contre, c'est de créer finalement des défauts. Il y a plein d'œuvres littéraires, de cinéma, de séries, tout ça, où on oppose justement les concepts de l'humain à celui de la perfection, qui est souvent symbolisé par des robots. Et si ça nous parle, c'est justement parce qu'on est plein de défauts. Nous, on est plein
imprévisibilité.
Parle pour toi.
Je suis entraîné pour dire ce mot.
Imprévisibilité. Donc là, tout le défi de Samsung, c'est finalement de pouvoir créer un humain artificiel. Sauf que pour créer un humain artificiel parfait, il faut justement créer un humain imparfait.
Et ben, ça va être intéressant d'aborder tout ça, en tout cas dans le débat qui va suivre. Juste avant, tu voudrais ajouter quelque chose, je crois.
Oui, je voulais juste rappeler qu'on parle ici d'un futur vraiment très lointain. Le projet de Samsung n'en est qu'au stade des démonstrations. D'ailleurs, les illustrations utilisées sont non contractuelles et on imagine que la technologie va mettre beaucoup de temps avant d'être vraiment bien peaufinée. Par contre, ça reste vraiment passionnant comme sujet. Il faut aussi noter que Samsung présente ici une vision de l'avenir basée sur un service, ou en tout cas plutôt sur des idées de service, alors que la marque sud-coréenne est aujourd'hui beaucoup plus connue pour ses appareils.
Oui, c'est un peu, quand on préparait cette émission, en fait, c'est vraiment la chose qui m'a interpellé, parce qu'il faut savoir que moi, je n'ai pas trop suivi effectivement ces annonces.
Il revient de vacances, okay, voilà, c'est bon.
J'avais le droit, et du coup, j'avais pas trop suivi les annonces. Et en fait, quand tu m'as présenté ce projet, je me suis dit, c'est étonnant, parce que Samsung, on les connaît beaucoup pour leur prouesse technologique physique, c'est-à-dire des écrans, par exemple, OLED, même les smartphones voilà, de qualité, ils fabriquent les puces, ils fabriquent le stockage, etc. Souvent on dit par exemple que l'iPhone est beaucoup composé de composants Samsung, assez ironiquement, mais on les connaît pas beaucoup pour leurs services. On voit que par exemple Bixby ou des services même de cloud
qui sont un peu effondrés,
de stockage de musique et tout ça, n'ont jamais vraiment marché commercialement.
Et One UI est profondément rattaché à un appareil, donc enfin One UI qui était un service donc super intéressant, mais qui est finalement un produit, en fait c'est un produit lié à
pour smartphone,
un appareil quoi, c'est ça. Donc c'est...
après, ce qui est intéressant, c'est que on parle de Samsung, mais dans les faits, je regardais une interview du patron justement de Star Labs auprès de The Verge, où il expliquait que a priori Star Labs appartient à Samsung, mais c'est une filiale, mais par contre c'est complètement indépendant. Les gens de chez Samsung, la maison mère, n'étaient pas au courant des détails de ce qu'elle allait être présentée. C'est vraiment un projet complètement indépendant et il explique que Star Labs pourrait être indépendant un jour et que voilà, Samsung n'a aucun intérêt directement là-dedans. C'est pas fait pour remplacer Bixby à terme, par exemple, ou pour avoir un assistant vocal directement dans son téléphone Samsung uniquement. C'est pas lié. Ça peut vraiment être disponible.
Ceci explique cela, du coup, justement. C'est pour leur motivation, elle est très différente de celle du cœur de Samsung, on va dire.
C'est pour exactement, ça que, c'est pas l'électronique. On est vraiment sur du service. Est-ce que tu y crois, toi, d'ailleurs, Omar, après avoir fait travailler un peu là-dessus
À Samsung Neon, en fait, c'est...
Enfin, Star Labs Neon, du coup.
Oui, c'est ça, le projet, il est hyper intriguant. À l'heure actuelle, j'y crois pas beaucoup. Surtout, en fait, quand on a appris que, comme je l'ai dit, les vidéos, les illustrations montrées par Samsung et par Star Labs ne sont pas contractuelles, sont vraiment purement à titre illustratif. Donc, ça rend le projet encore assez flou, finalement, aujourd'hui. Donc, je peux pas dire que j'y crois parce que, finalement, on sait encore peu de choses. C'est plutôt les questions qu'il ouvre et les usages. Et je pense qu'on va en discuter pendant ce débat. Cassim est en train de hocher de la tête. Mais c'est plutôt tout ça que je trouve vraiment intéressant à suivre. C'est des avatars avec lesquels on va discuter, avec lesquels on va interagir pour des services clients d'une entreprise, pour ce genre de trucs. Est-ce que ça va être ça notre futur? Est-ce que c'est vraiment quelque chose dont on a envie ou dont on a besoin? C'est là où j'ai pas forcément un avis arrêté, quoi.
Après, le truc, c'est que les avatars, t'en parlais, a priori, Star Labs n'a pas précisé si, du coup, c'était des humains qu'on voyait interagir. C'est des vrais modèles, c'est des humains en tout cas qui ont été pris en photo, qui ont été modélisés. Après, la question, c'est est-ce que c'est les acteurs ou est-ce que c'est de la 3D qu'on voit sur l'écran? Et ça, je ne crois pas que ça ait été dit.
Il me semble que c'est basé sur des...
c'est des vrais acteurs.
Les visages sont par contre générés, on n'a jamais vu ces personnes en fait.
Si, justement, il y en a une notamment, il y a des photos d'elles sur des...
Oui, ils ont pris des acteurs pour modéliser, mais il me semble qu'il y a des visages quand même qui sont générés par ordinateur.
Okay. Et un dernier mot, je voulais rajouter sur Starlight, cette structure un peu indépendante.
Star Labs. Starlight, c'est une très bonne musique des Superman Lovers, mais ça n'a rien à voir.
et en tout cas, ce que je voulais dire sur Star Labs, du coup, c'était que cette structure un peu indépendante, ça me rappelait le fonctionnement de Google X, la façon dont ils travaillent en indépendance par rapport à Google aussi. Et le côté, en fait, ça permet souvent, dans des boîtes et à Microsoft Research aussi, ça permet de travailler vraiment justement de façon indépendante des équipes produits et de ne pas penser à des services qui s'intègrent parfaitement dans le modèle économique de la marque, du coup être entre guillemets en déficit le temps d'investir, d'imaginer créer le produit, et éventuellement ça peut créer quelque chose de tout nouveau qui du coup justement est réellement innovant. Et c'est là où je trouve ça intéressant, c'est presque de la recherche fondamentale en fait quelque part.
C'est le principe même de la recherche, c'est pas répondre à un besoin concret, c'est plus
explorer une piste.
Aussi explorer une piste et après peut-être qu'on pourra piocher dedans pour répondre justement.
Et comme l'a fait Niantic pour un moment, Niantic a été possédé, est né comme une filiale, enfin comme une division de Google avant de battre de ses propres ailes et de partir un peu et de faire Pokémon Go derrière et tout ça. Mais aujourd'hui, Niantic qui a commencé comme une division au sein de Google est désormais un studio indépendant.
Donc, mais ça, voilà. Quelque part, c'est des préoccupations un peu économico-économiques. Oui. Et le plus intéressant, c'est encore d'imaginer les perspectives offertes par l'idée de ce projet, en tout cas, s'il aboutissait, d'un peu imaginer quels pourraient être les usages. Tu disais, il parle de présentateur télé, par exemple.
Ouais, présentateur télé. Enfin, moi, j'imagine un truc tout bête. Je suppose, je sais pas, les résultats de l'Euromillion ou la météo, des courts programmes qui durent 2 ou 3 minutes à la télé, c'est ce genre de choses comme ça. Je pense qu'une intelligence artificielle. Mon Dieu. Une intelligence artificielle est, je pense, capable de. C'est juste agréger des données ou citer des numéros gagnants, tu vois. Et du coup, qu'un avatar, avec cette base de données, puisse présenter cette émission de manière assez brève, aussi bien qu'un humain, finalement. Enfin, j'imagine que ça pourrait être possible et qu'à terme, si cette technologie se développe, ça coûtera peut-être moins cher, oui, qu'une main-d'œuvre humaine.
D'ailleurs, en France, avait déjà été fait avec Canal+.
Le big deal.
Une émission de jeux vidéo avec un avatar en 3D. Je me rappelle, j'ai un vague souvenir de quand j'étais.
Et puis après les mini-cups, je crois qu'il y avait aussi une émission. Ils avaient été remplacés sur France 3 par des personnages en 3D.
Effectivement. Oui, non, qui est souvent vieillissent très bien comme effet graphique d'ailleurs.
C'est toujours magnifique.
Mais l'intérêt, c'est vraiment. Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est au-delà du visage humain, c'est le côté social. Et moi, je pensais plutôt au côté pour aider les personnes isolées. Des fois, quand tu manques d'interaction sociale, je pense même aux adolescents, par exemple, quand tu es en détresse, même sociale, d'avoir quelqu'un à qui tu pourrais éventuellement parler. En plus, peut-être en sachant que c'est justement une personne artificielle, et du coup, peut-être avoir moins de freins à l'idée. Tu peux te confier à lui dans le sens où c'est
l'insulter.
Moins grave.
Il y a deux choses qui se posent. Soit justement, on va le considérer comme un humain, et peut-être que finalement, ça va plus nous fermer. Est-ce qu'une personne isolée a besoin justement d'un être humain? Du coup, quelqu'un qui va se comporter comme un être humain et du coup avoir peur de la réaction d'un être humain? Ou est-ce qu'il va vraiment garder en tête je sais que je parle à un robot, il est très
est-ce que tu vas avoir de l'empathie cette personne artificielle?
Ça va être c'est de l'empathie ou non je pense à Big Hero 6 là dans le dessin animé où il se lie d'amitié avec un robot et on a beaucoup d'amitié. Il est en situation de détresse parce que son frère est décédé, je crois, et du coup j'ai spoilé le début du film il est en détresse et il doit s'adresser à ce robot qui finalement se montre extrêmement empathique.
C'est justement un robot curatif en fait.
Ouais, en plus
d'aspect pour le coup qui n'a pas un aspect humain aussi, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on n'a pas forcément besoin d'un aspect humain pour ressentir de l'empathie envers une machine, il suffit juste qu'elle soit capable d'émotion.
Et là il y aura toute la question aussi de la vallée dérangeante qui va se poser
clairement
qui va se poser comme question,
c'est
parce que
le contraste, je crois, entre la façon dont on imagine l'intelligence artificielle en Occident et la façon dont elle est imaginée en Asie, où le but de l'Asie en général culturellement est beaucoup plus facilement de se rapprocher de la bizarrement d'un robot à visage humain, alors que bizarrement nous ça nous fait peur à cause de Terminator et tout ça, l'idée d'un robot,
parce qu'effectivement il y a aussi la vallée dérangeante, ce qu'on appelle l'uncanny valley, qui est que plus on va essayer de se rapprocher d'un visage humain réaliste, moins justement plus on va voir les imperfections et plus ça va être dérangeant dès qu'il y a une micro-imperfection, comme on l'a vu sur les CES ces 15-20 dernières années. À chaque fois qu'il y avait un robot d'apparence humaine qui était présenté, on était là, mais c'est moche, c'est bizarre. Et
c'est ce qui se passe quand on regarde un film,
c'est
aussi
trop réaliste. Et quand on regarde un film aussi,
Gollum a bien vieilli dans Le Seigneur des Anneaux, c'est parce que justement il est assez éloigné, c'est très bien fait, mais il est assez éloigné d'un visage humain pour qu'on ne voit, on se dise pas, voilà, c'est bizarre comment il ferme l'œil, c'est bizarre comment il...
Je voudrais revenir rapidement sur la question de l'usage, parce que pour moi aussi l'usage va dépendre essentiellement du support. C'est-à-dire les néons nous ont été présentés, puisqu'a priori un néon c'est un avatar, nous ont été présentés dans des espèces d'écrans tout en hauteur qui moi me font beaucoup penser à ce qu'on retrouve dans les grands bureaux, les grands bâtiments, les grandes entreprises, dans les halls d'accueil, et ça fait limite écran publicitaire aussi qu'on voit dans le métro parisien.
Carrément.
Et donc pour le coup, pour moi, ça me fait essentiellement penser à des hôtes d'accueil.
Exactement.
À long terme, je pense que... Mais par contre, si tu as le côté hôte d'accueil, on se fout beaucoup du côté humain, en fait.
Oui et non.
C'est là
je
où
sais
ça
dans,
peut
dans,
être un peu...
Dans un aéroport, par exemple, je sais pas, tu lui demandes ton chemin, il y a 45 000 terminaux.
Ouais, mais dans ce cas, tu vas avoir non. juste la réponse, tu veux pas interagir avec la personne.
Peut-être que, oui, enfin, voilà, c'est justement, est-ce que c'est le futur dont on a envie d'avoir des avatars ultra-humains qui, finalement, nous rendent service, mais est-ce qu'on a besoin d'un ami vraiment, même juste pour demander son chemin, quoi.
Alors, c'est là où je reviens sur la question de l'empathie qu'on avait rapidement abordée. Moi, ce qui m'a empêché vraiment d'adopter jusqu'à présent tout ce qui est assistant connecté, les Google Assistant, Cortana, Alexa, machin et compagnie, là, c'est justement le manque d'empathie que tu as avec ces assistants-là. Le fait que tu sois obligé de leur donner des ordres, alors que moi, j'aimerais bien dire à Google, enfin, Alexa plutôt, qui est plus personnifié, ou Siri. Éteins-moi la lumière, s'il te plaît, ou même allume-moi, machin, sans formuler un « ok, truc, allumé, salon, lumière ». Oui, je suis en train de réveiller tous les smartphones. Du coup, voilà, c'est cette empathie-là que du coup, je rechercherais éventuellement justement dans un assistant, par exemple, donc à l'aéroport, comme tu en parlais il y a deux secondes. J'aurais besoin en fait de cette empathie-là, de cette humanité-là pour peut-être plus facilement formuler et plus facilement accessible. En fait, il faut aussi rappeler que c'est le genre d'appareils qui doivent être accessibles au plus grand nombre et pas forcément des gens avec qui sont à l'aise avec l'informatique en général.
Il y a ça, et je pensais aussi au côté éducation, peut-être parfois, tu sais, imagine une plateforme qui est mise à disposition des élèves dans une école primaire ou je sais pas quoi, et au lieu de faire oui, ok, machin, j'ai besoin de mon agenda de la semaine prochaine, et au lieu d'avoir un Siri ou un Google Assistant avec une interaction avec un enfant de 7 ans, avoir peut-être un truc qui est justement pensé pour un enfant en primaire, et lui faire écoute, voilà, là tu as ton truc, enfin, je sais pas, un truc un peu plus didactique qui du coup permet un meilleur éveil de l'enfant, mais après je n'ai pas d'enfant, donc je sais pas à quel point.
Le truc, c'est qu'après, typiquement aujourd'hui, quand on nous a vendu au début les assistants vocaux à la Alexa, à la Google Assistant, à la Siri, on était là, enfin, on nous le présentait comme vous pourrez discuter avec lui. Aujourd'hui,
le but, enfin le rêve, c'est Jarvis, quoi, en gros.
Oui, Iron Man. Mais aujourd'hui, qui discute avec son assistant vocal ? Moi, je lui dis un, éteins la lumière. Il éteint la lumière. J'ai tenté hier. Je lui dis un, raconte-moi une blague. Il m'a encore raconté une blague toute pourrie avec un bruit de tambour derrière. Non, elle était toute pourrie. Enfin, oui, t'as pas besoin d'accentuer le fait qu'elle était toute pourrie. Mais par contre, tu discutes pas. Tu lui donnes des tâches.
Oui.
Là, effectivement, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un avec qui tu discutes, même si. Bon, l'usage en tant que tel, perso, à part pour des entreprises. En fait, moi, ça me rappelle aussi la première Surface de Microsoft, avant que Surface soit une tablette, quand c'était une table.
Une table basse.
Qui était présentée comme une innovation majeure, mais qui finalement a juste été adoptée par des entreprises parce que ça coûtait trop cher et que finalement le grand public n'en avait pas besoin.
Tu parles de cet appareil qui est sorti avant l'iPhone et qui avait un écran tactile géant avec le multitouche.
Il y a moyen que ça soit limité vraiment à des lieux publics. On a parlé de l'aéroport, on a parlé de ce genre des halls d'attente et tout ça. Et au monde de l'entreprise, effectivement, parce qu'il y a aussi un truc, se demander si on a envie peut-être dans certains cas très spéciaux, est-ce qu'on a vraiment envie de quelqu'un avec nous tout le temps, un avatar. Alors déjà, sous quelle forme ? Est-ce qu'il serait sur notre écran de smartphone ? Est-ce qu'il serait sur notre télé en train de nous regarder dormir ? Est-ce qu'il serait...
Comment est-ce qu'il interagit avec nous ? Est-ce que ça veut dire avoir la webcam et le micro activé en permanence ?
Oui, oui.
Moi, j'ai pas envie d'avoir ma webcam et mon micro sur mon PC activé en permanence à la maison.
Plus basiquement que ça, en tant qu'un peu nerd technicien, gaming, tout ça, de la rédac, je pense même au fait qu'on parle d'un visage humain qui est très, très, très réaliste, donc il est modélisé en 3D. Il est modélisé en 3D où, en fait ? Parce que du coup, s'il parle, il faut qu'il soit, j'imagine, en temps réel.
Ouais.
Et donc, du coup, ça veut dire que un smartphone ne peut pas faire tourner un truc aussi élaboré en 3D en temps réel.
5G.
Donc, du coup, on imagine une sorte de système de cloud. Du coup, ça veut aussi interagir avec un élément qui aura une mémoire de nous dans le cloud.
Et avec lequel il faudra avoir une connexion rapide, sans latence.
Si tu commences à poser une question et que le truc freeze à moitié.
En plus, je pensais à un truc. Quand tu es dans une voiture, par exemple, et que tu mets le GPS, Maps et tout, tu as juste la voix donc très robotique. À 300 mètres, tournez à droite. Peut-être que des gens auront plus de plaisir à conduire si c'est une sorte de copilote qui est à côté d'eux. Et le gars, il fait ouais, là, hop. Tu roules encore un peu, glisse-toi sur... prends déjà la voie de droite, et là, tu vas te... avec un ton un peu plus naturel et tout, et surtout personnalisé avec un visage que tu connais finalement.
Et comme agirait un copilote quand tu pars en voyage avec un pote. Effectivement, il faudrait une connexion super rapide, il faudrait une interaction en direct. Et c'est compliqué à imaginer aujourd'hui.
Je cherchais à l'instant sur le site de The Verge, justement au niveau de l'interview qu'ils ont fait du PDG de Starlabs. Ils expliquent que les démonstrations qu'on a vues, effectivement, ce qu'on a vu sur scène était précalculé, mais en revanche, il y avait des démonstrations qui étaient disponibles sur le CES, sur le salon pour les gens qui voulaient voir. Ça tourne avec un processeur 128 cœurs. Oui, donc, pas demain la veille que ce sera disponible sur ton PC en local. Effectivement, ça veut dire que ce sera a priori du cloud, ce qui veut dire aussi, théoriquement, qu'on pourra y accéder depuis un smartphone, depuis son ordinateur chez soi, depuis Stadia, voilà.
Ce qui aidera aussi à la conservation des données, enfin le fait qu'ils se synchronisent du coup avec l'appareil, ce sera toujours la même version de ton néon qui te parlera. J'avais deux usages encore à vous suggérer. Quand on avait notre conversation là, les services et plus particulièrement, tu parlais de dans le cadre d'une école en fait. Toi, tu parlais juste un peu de l'interaction. Enfin, j'ai l'impression de devoir presque toi.
Ouais, presque.
Mais il pourrait carrément
donner quoi.
Mesure est-ce qu'il pourrait remplacer alors moi
là c'est un sujet très touchy.
Je te dirais que non, mesure il pourrait remplacer un enseignant face à une classe ou face à justement plutôt ne plus avoir besoin de classe ou avoir un suivi individuel
pour l'éducation
si chaque élève avait
pour l'enseignement je l'imaginais plus en assistant au prof plutôt que parce que
c'est beaucoup trop élève là son néon.
Mais j'avoue que j'ai beaucoup trop de difficultés aujourd'hui à parce que c'est le modèle que nous on a connu et tout la classe bien classique sûr. Traditionnelle et donc effectivement ça j'ai du mal à imaginer quelque chose en remplacer fait, le prof ou l'instituteur mais en assistant au prof pour l'aider à programmer des trucs pour que s'ils ont pas pris bien les notes en fin de cours ils savent qu'ils peuvent encore demander à un avatar c'est quoi déjà le truc dont je dois me rappeler pour demain ce genre de truc quoi.
Ça m'y fait penser parce qu'en fait des fois quand on parle de ce projet j'ai presque l'impression que Facebook aurait pu avoir les mêmes idées ça fait très Facebook comme idée un peu bizarre du truc futuriste que tu sais pas si t'as envie ou pas de l'avoir et Facebook a justement via Oculus a cette ambition aussi c'est de révolutionner plus ou moins la salle de classe en proposant déjà avec la réalité virtuelle d'avoir des salles de cours mutuelles faites à distance quoi. Et puis même on peut imaginer via la réalité virtuelle, avoir accès à visiter des paysages et compagnie.
Mais pour le coup, ils ne sont pas du tout sur l'IA.
Ils ne sont pas du tout sur l'IA, mais du coup, c'est un peu deux visions. Enfin, on pourrait imaginer deux visions
presque complémentaires.
Et typiquement, le truc, c'est que pour remplacer, pour les usages, si on se met à imaginer que ça puisse remplacer des profs, théoriquement, ça pourrait remplacer tous les métiers intellectuels aussi. Ça dépend de la puissance de l'IA.
Les journalistes.
Voilà, si c'est une IA générale ou si c'est une IA spécialisée. A priori, l'idée, c'est que ça soit une IA générale, puisque elle peut interagir de tous les côtés avec nous. Donc, théoriquement, elle pourra remplacer les journalistes, elle pourra remplacer les hôtesses d'accueil, on en parlait tout à l'heure, elle pourra remplacer absolument tout le monde. Donc, je ne veux pas.
Et justement, en parlant des journalistes, tu m'offres une transition toute trouvée vers l'autre sujet dont j'avais parlé il y a deux secondes, la deuxième idée, en fait, deuxième scénario. Ce qu'on voit avec les deepfakes, en fait, l'idée que est-ce qu'on pourrait créer un néon, du coup, je pourrais créer un néon de, je sais pas moi, un présentateur télé en vogue sur BFM TV, par exemple, et le faire
dire n'importe quoi,
le filmer, enfin l'enregistrer.
Et ça, c'est des problématiques qu'on a déjà aujourd'hui, avec les sans avatar.
Oui, c'est ça. Est-ce que ça pourrait pas être amplifié en plus avec des humains virtuels peut faire dire nappe fin si il y a pas les contrôles.
Après la question c'est quel est le contrôle qu'aura l'utilisateur sur justement le néon qu'il va créer parce qu'a priori il pourra le créer.
Il y a tellement
est-ce que
de
c'est
questions.
Un Sims auquel cas tu choisis quelles sont ses aspirations, quelle est la longueur de ses cheveux, le grain de la peau, etc. Ou est-ce que c'est juste je choisis parmi 5 types et puis ils vont se développer tout seuls de toute façon.
Rappeler le cas c'était vraiment l'intelligence artificielle mais le cas de l'assistant développé par Microsoft. Qui a été lancé pendant 24 heures.
Le nazi, là
qui est devenu antisémite, raciste, misogyne.
Grâce à Twitter, grâce à la magie de Twitter, parce que les gens lui apprenaient des choses nazies. En gros, lui ont appris en moins de 24 heures qu'il fallait faire des choses mal. C'est un peu l'exemple.
Sauf que là, il interagira qu'avec une seule personne, c'est théoriquement.
Théoriquement, encore une fois, on est vraiment sur de la théorie. Ils ont expliqué finalement que la base du concept et même pas vraiment développer les applications. question. Et encore, on revient à ce qu'on disait au début. On est sur de la recherche presque fondamentale. Et tout dépend à chaque fois de ce qu'on en fait derrière. C'est comme... Attention, c'est comme Internet finalement.
Non, mais, l'autoroute des informations. Non,
mais c'est vrai, enfin, finalement, Internet, ça a été un projet de recherche qui a été concrétisé ensuite. C'était juste pour échanger des données, mais c'est tout ce qu'on a dit au début. C'est bah, des trucs qu'on envoie et qui sont échangés nœud par nœud comme ça. Et aujourd'hui, bah, on a le web, on a tout ça.
On a
ça,
le Twitter de Donald Trump.
C'est ça, voilà.
Et on a Wikipédia. On a pour pas parler de, un peu
des projets positifs aussi.
Un des trucs qui a été mis en avant aussi dans ta chronique Omar, c'est que tu parlais des. A priori, les néons auront des défauts.
En fait, c'était plus une ouverture. Enfin, j'imaginais, du coup, comme il parle d'humain artificiel, tu ne peux pas parler d'humain sans défaut.
C'est
en fait.
Ça. Et a priori, c'est quelque chose qui est prévu justement directement par l'équipe de vouloir faire des défauts à ces personnes. C'est-à-dire que parfois, ils vont avoir la flemme, parfois, ils seront fatigués, parfois, ils auront besoin de se reposer. Ce qui ne sont pas des défauts, hein, c'est qualité. Mais reposez-vous, c'est important.
Cette imprévisibilité, en tout cas. On peut en parler de défauts aussi dans le sens opposé à un robot, en fait.
Ils peuvent être égoïstes, ils peuvent être altruistes, ils peuvent
parler trop comme.
C'est un élément auquel on a réfléchi en fait quand on était en train de préparer l'émission et justement le côté qui tranche en fait avec le but. Quand je parlais de Jarvis il y a deux secondes, le but des assistants classiques type Google Assistant et tout, c'est d'amener une réponse universelle, d'être parfait en fait, de se rapprocher le plus possible de la perfection qu'on voit dans les films de science-fiction,
d'avoir réponse à tout tout de suite,
une connaissance ultime, etc. C'est des choses que tu ne retrouves pas chez les humains a priori communément. Bon, peut-être moi, je ne sais pas, mais en tout cas, normalement, tu n'as pas une connaissance absolue. Et du coup, ça casserait le côté réaliste de l'avatar si tu commençais à avoir réponse à tout, en fait.
Pour ça qu'a priori, ce sera, il le précise d'ailleurs, Starlab, ce ne sera pas Bixby.
C'est ça, mais juste, ça veut dire qu'à quel point, du coup, tu dois limiter l'intelligence. C'est pour ça qu'on a parlé, j'ai parlé d'intelligence artificielle parce que des algorithmes qui apprennent de manière autonome, c'est ce qu'on appelle les intelligences artificielles, c'est de fait, mais. À quel point tu limites à la base l'intelligence d'un avatar, parce que justement pour qu'il soit humain il faut qu'il ait un bagage culturel de base, des choses qu'il ne savait pas, des choses qu'il oublie peut-être aussi, il y aurait peut-être des choses qu'il oublie.
Niveau de la configuration, je pense ça dépend à quel point est-ce que Néon va intégrer directement des packages de connaissances et de caractères dans son truc, et ensuite il va s'en... La question, c'est est-ce qu'il va s'enrichir uniquement parce que toi, tu lui dis, ou est-ce qu'il va s'enrichir aussi en partie par le cloud?
Est-ce que quand tu n'interagis pas avec lui, il est en train de regarder BFM TV, tu vas dans le canapé.
Il chill devant Netflix, tranquillou.
Est-ce que parfois... Moi,
je me suis fait la saison de The Witcher.
Ce que je me demande, c'est que, admettons, le truc, il est activé en permanence chez toi. Enfin, genre, vraiment, on va se mettre sur un truc. Quand est-ce que tu lui dis comment que tu n'as plus envie de lui parler?
Laisse-moi tranquille maintenant.
Laisse-moi tranquille maintenant. Ou est-ce que lui, du coup, au bout d'un moment, il va se casser?
Ils vont se marier avec leur néon. Hein. Je suis sûr, il y en a, ils vont se mettre en couple, divorcer, je sais pas.
Est-ce que tu peux bouder avec. est-ce que le néon peut bouder?
Il y a tellement de trucs où tu te demandes.
Hier, t'as pas voulu me parler.
en vrai, c'est un truc que tu n'aurais pas avec Jarvis et potentiellement
c'est
Google
vraiment,
Assistant.
C'est vraiment ça, tu interagis avec ton Sims. Quoi.
Ouais.
Il y a vraiment ce côté-là.
Il rêvera d'être tel, de faire tel métier, il échouera, tu seras là pour le consoler. Déjà, tu le récupères à quel âge ton néon? Est-ce que c'est un adulte développé déjà? Est-ce que c'est un ado au début? Qu'est-ce que...
Il y a plein de questions. On n'a pas de date pour le coup.
Non, absolument pas. Absolument. Okay. Enfin, c'est juste un. C'est là.
C'est un proof of concept, quoi, comme on en voit beaucoup au CES.
Exactement. Mais qui est un des buts du CES, on ne le rappellera jamais assez, de montrer des concepts qui ne sont pas forcément amenés. Être réalisé, c'est pour ça des fois qu'aussi tout et n'importe quoi peuvent être présentés au CES.
Comme le disait Omar, on a eu des concepts car, on a eu le concept de OnePlus, on a eu trois concepts chez Dell en matière de PC. Effectivement, c'est une idée jetée un peu en l'air, mais peut-être qu'on le reverra l'an prochain sous forme de produits en cours de finalisation. Et puis peut-être que dans 10 ans, ce sera là. Parlons pas.
Est-ce que vous avez une dernière chose à dire un peu sur ce CES ou le futur en général de projet Néon? Et est-ce que ça vous a peut-être un peu convaincu, cette discussion? Est-ce que vous avez envie d'en avoir un chez vous, dans l'idée?
Là, non.
Non.
là, non.
Non.
Je rentre chez moi, j'ai envie
d'être tranquille. J'ai envie d'être tout seul ou avec ma copine, mais j'ai pas envie d'avoir un... Ça se trouve, tu t'entends pas avec ton néon. En plus, ça se passe comment quand tu dis « je t'aime pas », rentre chez toi, je veux pas te voir.
Comment résilier son néon?
C'est ça.
Est-ce que tu rebootes le caractère? Comment tu fais? Non, t'es moche, je veux pas de toi. Ou... Non, pas t'es moche, mais non, ça se trouve, ce sera un enfoiré fini.
Le sujet est passionnant, mais j'arrive pas à développer un avis dessus fini en fait. Ça va être, je crois que mon avis va changer aussi chaque mois, chaque semaine, à chaque fois que le sujet reviendra.
Dans les trucs creepy, mi-deepfake, et je finirai là-dessus, c'est, je repense à un épisode de, on parlait de Netflix, de Black Mirror, il me semble, évidemment, où il y a un avatar qui est justement créé à partir de la mémoire d'une personne. Ouais. En gros, il va scroller tout son Facebook depuis sa naissance dans un monde où les gens mettent tout sur Facebook depuis leur naissance.
Ce qui n'arrive pas. Notre monde. plus maintenant, depuis.
Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, bref, un monde où les gens partagent tout. Et du coup, la personne se crée un avatar, du compagnon décédé, à partir des souvenirs Facebook. Et du coup, est-ce qu'il y aurait une interaction, est-ce que du coup, ce serait possible dans l'idée ça, c'est beaucoup trop tôt pour moi, mais voilà, c'était juste, j'y repensais. On parlait un peu de futurologie et des craintes sur le futur. Ça m'y faisait penser, mais je crois qu'on a du coup fait le tour du sujet de discussion.
En tout cas, on a ouvert plein de pistes. Maintenant, voilà. Y répondre, ce sera dans 15, 20, 25.
Répondez-nous si vous voulez dans les commentaires. Il y aura un article du coup en lien dans les notes de l'émission qui sera sur le site de Frandroid, où vous pourrez justement venir commenter et nous dire votre avis sur Projet Néon, parler un peu de ce que vous craignez ou ce que vous attendez plutôt avec excitation, de savoir si c'est un truc plutôt positif que vous envoyez ou des nouveaux cas d'usage auxquels on n'a pas pensé dans cette émission. N'hésitez pas à venir nous le dire. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous mettre une note sur iTunes si ça vous a plu et si cette discussion vous a plu. Ça nous aide vraiment beaucoup sur iTunes a priori ou sur votre application de podcast si elle a une note, si y a un système de notation, n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir.
Et je vais la refaire, s'il n'y a pas de note, trouver un moyen comme de mettre 5 étoiles sur Twitter, ça fait toujours plaisir. Vous prenez les emojis étoiles, vous nous les envoyez.
En tout cas, voilà, ça nous aide vraiment beaucoup et quant à nous, on vous dit à la prochaine fois. Ciao.
Bye. Bye. Ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.